le magazine des Nations Unies.
Bienvenue dans le magazine des Nations Unies, votre rendez-vous dominical sur la 103.5. D'abord, ces titres. Les rebelles burundais du FNL sont bel et bien sur le territoire congolais dans le sud Kivu. La MONUSCO le confirme, mais qu'en est-il de la présence cette fois des troupes burundaises dans la même province? Réponse dans cette émission. Entre-temps, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC appelle les groupes armés à déposer les armes. C'est à l'occasion de la célébration jeudi dernier de la Journée internationale de la non-violence. Coup de projecteur sur UNAS, le service aérien humanitaire des Nations Unies. Cette compagnie semble peu connue des Congolais et pourtant elle rend d'énormes services aux humanitaires. Nous allons la découvrir dans notre rubrique décryptage. Enfin, les femmes déplacées du camp Mugunga 3 près de Goma en quête de bois de chauffe sont souvent victimes de violences sexuelles de la part des groupes armés. Comment les préserver de ce fléau et les aider à cuire sans frais leur nourriture? Le PAM et le comité de réhabilitation du sinistré dans son milieu ont imaginé et mis en place une recette à moindre coût à découvrir avec notre invité du jour. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les rebelles burundais du FNL sont effectivement présents et actifs au sud Kivu. Le porte-parole militaire de la MONUSCO l'a confirmé au cours de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Suivez les propos du lieutenant-colonel Félix Bastre, recueilli par Honoré Missenga Kalala.
Concernant la présence des rebelles FNL, leur présence dans la province du Sud Kivu ne date pas d'aujourd'hui. Je peux tout simplement dire que ces rebelles FNL sont traqués jour et nuit par les forces armées de la République démocratique du Congo qui mènent des opérations de manière récurrente pour essayer de contenir ces rebelles-là. Donc je ne pense pas que ces rebelles FNL aient un camp dans la province du Sud Kivu où ils s'entraîneraient. Ça, c'est la réponse que je peux donner par rapport à ces rebelles FNL.
En même temps que ces rebelles, l'armée burundaise se trouverait-elle aussi au sud Kivu? Selon le porte-parole intérimaire de la MONUSCO, Charles Bambara, des missions d'enquête ont été envoyées sur le terrain pour s'enquérir de cette présence ou non des troupes burundaises sur le territoire congolais. Écoutez encore ici les explications du colonel Félix Bast à ce propos, toujours au micro de Honoré Missenga Kalala.
Il faut d'abord signaler que entre les mois de mai et de juin, nous avions envoyé plusieurs missions aussi bien à Uvira, à Kiliba et à Kiliba-Ondes pour nous enquérir un peu de cette présence des troupes burundaises dans la province du Sud Kivu, et ces résultats n'avaient rien donné à l'époque où nous étions en train de parler de cette question il y a peut-être 2 ou 3 semaines en arrière. Une petite évolution est survenue parce que nous ne nous sommes pas arrêtés là. Suite à justement à toutes ces requêtes qui étaient formulées de manière récurrente, nous avons poursuivi ces enquêtes-là. Et vous savez, il faut aussi situer toutes ces activités-là dans un cadre qui est bien précis. Depuis fort longtemps, pour les besoins de la sécurité, vous savez bien que le long de la frontière entre le Burundi et le Congo, nous avons cette présence d'un groupe armé qui est le FNL qui opère dans cette zone-là. Des patrouilles simultanées et conjointes ont été menées à plusieurs reprises par les deux forces des deux pays en vue de mieux verrouiller cette frange frontalière qui est assez poreuse d'ailleurs. Donc c'est dans ce cadre-là que beaucoup d'activités ont été menées et continuent d'être menées entre le gouvernement congolais et le gouvernement du Burundi pour ramener la paix dans cette zone qui est soumise, si vous voulez, à toutes ces activités négatives des FNL.
Autre actualité de la semaine, le monde a célébré jeudi 2 octobre la journée internationale de la non-violence. Une occasion pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, d'adresser un message de paix au peuple congolais et particulièrement aux groupes armés. Suivez un extrait de ce message sélectionné pour vous par Jean-Pierre Elali Coco.
C'est essentiellement aux groupes armés que je voudrais passer un message aujourd'hui. Déposez les armes, cessez le combat, mettez fin à la violence. J'appelle les FDLR, l'ADF, Tcheka, les Raia Mutomboki, les divers groupes Mai Mai, les Bakata Katanga, les FRPI, la LRA, à cesser immédiatement toute violence et à rendre la paix et la tranquillité aux populations congolaises.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'UNAS, c'est le service aérien humanitaire des Nations Unies. Quel rôle joue-t-il dans l'humanitaire? Quelle est sa mission dans les zones en conflit ou post-conflit? De quelle flotte aérienne dispose-t-il? Et quelles sont les catégories de passagers qui voyagent à bord de ces avions? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, Jean-Pierre Elali Ikoko reçoit José Odini, responsable de l'UNAS en RDC, et Onésiphore Mouchira, responsable de la clientèle de cette compagnie. Suivez leur entretien.
Monsieur José, bonjour.
Bonjour, Jean-Pierre, et bonjour à tous.
Qu'est-ce que c'est l'UNAS? D'où vient sa création?
UNAS est le service aérien humanitaire des Nations Unies. Il est géré par le PAM à travers la section de l'aviation du PAM. La première activité d'UNAS était sous UNCAS, service aérien commun des Nations Unies pour la Somalie, ayant débuté en 1996 et mis en place conjointement avec le PNUD, l'UNICEF, le PAM et l'HCR. Plus tard, ce service était devenu UNAS. Et à cet stade, UNAS avait déjà élargi ses activités à d'autres pays pour devenir un service aérien des Nations Unies pour les humanitaires. En 2013, UNAS était présent dans 14 pays, dont, par exemple, Afghanistan, Yémen, Mali, Somalie, la RDC et bien d'autres. UNAS est mise en place dans un pays en réponse généralement à une demande de l'équipe dirigeante des Nations Unies, basée dans les pays concernés. Par la suite, la section aviation du PAM finalise les services et les met à la disposition de la communauté humanitaire, c'est-à-dire ONG et agences des Nations Unies, comme c'est le cas en RDC depuis 2008. Ce service continuera aussi longtemps que les besoins existent et que le financement est disponible.
Et pourquoi l'UNAS est gérée seulement par les PAM ici en RDC et non pas par une autre agence des Nations Unies, M. José?
Parce que dans le cadre de la coordination des Nations Unies, tous les fonds, programmes et agences ont reçu un mandat spécifique. Le PAM est mandaté pour diriger tout ce qui a trait à la logistique liée à la réponse humanitaire, étant donné que, de par son rôle, il est le premier fournisseur d'aide alimentaire dans le monde et que cela s'est toujours traduit par le déplacement de grandes quantités de produits alimentaires. Ainsi, à travers le monde, le PAM a mis au point un solide système logistique qui comprend un service aérien. De ce qui précède, c'est le DPKO DFS et le PAM. Ils sont autorisés à assurer le transport aérien pour les services des Nations Unies.
Nous allons passer maintenant à M. Onésiphore Mouchira. Alors, quelles sont les catégories de personnes qui ont accès aux avions UNAS?
UNAS assure le transport des passagers et du cargo humanitaire aux organisations non gouvernementales et aux agences des Nations Unies. Mais ces agences doivent être engagées dans un projet d'aide humanitaire dans la région. Et aussi, cela est étendu aux bailleurs de fonds et à certains partenaires, pourvu qu'ils soient impliqués dans les activités humanitaires. Et c'est ainsi que, par exemple, on peut étendre la fourchette de ceux qui utilisent ce service par ceux qui sont partenaires à tous les acteurs humanitaires déjà enregistrés à UNAS.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, les promoteurs des ONG à caractère humanitaire peuvent prendre vos avions?
Pourvu qu'ils soient enregistrés chez UNAS et approuvés par le coordinateur humanitaire du pays.
Quelles sont les zones de la RDC le plus desservies par le vol UNAS? Et à quel moment particulier ces avions sont-ils sollicités?
UNAS utilise pour de longues distances un avion rapide de 50 sièges pour relier Kinshasa et l'est de la République. Pour de courtes distances et à travers les petites pistes de l'intérieur, un avion hélice de 37 sièges avec une flexibilité pour avoir deux compartiments pour passagers et cargo est utilisé pour les provinces de l'Équateur et les deux Kasaï. Deux avions à hélice de 19 sièges chacun, dont un est basé à Goma et un autre à Kalemi, et un hélicoptère de 22 sièges est basé à Goma. De façon additionnelle, on peut ajouter deux aéronefs de caravane de 9 sièges utilisés par notre partenaire Aviation Sans Frontières France, dont un est basé en Bandaka et un autre à Bounia. Ils ont la capacité d'atterrir sur de courtes pistes de brousse. Actuellement, on peut dire que Aviation Sans Frontières France a besoin de financement pour bien couvrir toutes les activités humanitaires à travers la province de l'Équateur et la province orientale.
Qui finance alors l'UNAS?
L'UNAS apprécie de façon particulière l'appui réseau des chevaliers de fonds. En RDC, en 2013, l'UNAS était financé par les USAID, OFDA, les Royaume-Uni et AID, le Japon, les Fonds communs humanitaires, Pool Fund, la Suède, le Canada et l'Allemagne. Ainsi, UNAS fonctionne grâce aux contributions volontaires de ces bailleurs et un système de recouvrement partiel des coûts pour les passagers mis en place. Ce système permet de réduire le nombre de passagers qui ne se présentent pas à l'enregistrement au vol. Le budget actuel de UNAS en RDC pour 2014 n'est pas encore entièrement couvert et quelques défis à cet égard sont attendus pour l'année 2015.
Quelles sont les difficultés que rencontre le service aérien humanitaire des Nations Unies et c'est le cas de UNAS? Est-ce que M. José peut répondre à ces questions?
Le principal défi traditionnel face à l'opération, c'est l'incertitude d'obtenir un financement durable. Nous remercions du fond du cœur le support financier reçu de la part de nos bailleurs de fonds. Nous avons effectué des vols vers les zones isolées où les humanitaires exercent les activités. D'autres contraintes sont liées à une flotte limitée vis-à-vis aux distances et destinations à couvrir, auxquelles il faut ajouter une situation sécuritaire de temps en temps instable. La carence d'infrastructures de base en aviation dans certaines zones du pays que la RDA essayait de développer, le contexte géographique avec un relief accidenté à l'est de l'RDC et les problèmes liés à la météo constituent aussi un contraint à ne pas négliger dans l'aviation.
Ebola, c'est une maladie qui sévit pour l'instant dans la province de l'Équateur, plus précisément dans le territoire de Boindé. Est-ce qu'on peut estimer l'apport ou même la contribution de UNAS dans la lutte contre cette épidémie qui sévit à l'Équateur? On est si fort, si vous pouvez répondre à cette question.
Pour répondre à cette question, nous vous dirons que UNAS a mis en place une réponse rapide afin d'intervenir dans la région de Boindé en organisant les vols tous les mardis et tous les samedis de Kinshasa, Mbandaka, Boindé et retour afin d'apporter médicaments, déplacer les médecins et tous ceux qui interviennent de façon directe dans l'épidémie Ebola.
Et c'est depuis le début de l'épidémie que vous le faites?
Effectivement, ça a été une réponse directe dès que l'épidémie a été déclarée.
Monsieur José Odini et Monsieur Onesifor Mouchera, tous les deux, je vous remercie d'être venus à Radio Capi.
Nos informations en bref. Nous commençons par cette nouvelle, la section protection de l'enfant de la MONUSCO rapporte 37 cas d'enfants victimes directes des violences liées au conflit du 15 au 26 septembre dernier. Il s'agit notamment d'un garçon de 3 ans tué par balle par un milicien tchéka, 7 filles violées et 5 autres garçons utilisés comme combattants sur le champ de bataille. Par ailleurs, selon la même source, 6 écoles et 3 centres de santé ont été attaqués, utilisés à des fins militaires ou pillés dans le territoire de Shabunda au cours d'affrontements entre les Raia Mutomboki et les FARDC. Crise d'Ebola, pour finir, le coordonnateur humanitaire Mustapha Soumaré a alloué 2,5 millions de dollars américains pour répondre aux besoins liés à la maladie d'Ebola qui sévit à l'Équateur depuis août dernier. Cet argent sera ventilé entre le PAM et l'UNICEF pour un certain nombre d'activités, notamment le fret aérien, le transport des médicaments et du personnel de Kinshasa à la zone infectée, ainsi que le financement des projets dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
En allant chercher du bois de chauffe dans le parc de Virunga, les femmes déplacées du camp de Mugunga 3 à 10 km à l'ouest de Goma sont souvent victimes de violences sexuelles de la part des bandes armées. Comment les mettre à l'abri de ces abus et les aider à cuire sans difficulté leurs aliments? Le PAM et le comité de réhabilitation du sinistre dans son milieu, CRSM, ont imaginé et mis en place une technique de fabrication des briquettes de chauffe. Ce projet qui profite à près de 2000 000 déplacés est une expérience enrichissante. Jean-Pierre Elali Coco s'est rendu sur place et s'entretient ici avec Vianney Kagamba, coordonnateur du CRSM et initiateur du projet.
Monsieur Vianney Kagamba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes du comité de réhabilitation du sinistre dans son milieu ici à Goma et vous avez initié le projet de la fabrication des briquettes avec l'appui financier du PAM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet?
Je suis l'initiateur du projet. Le PAM et CRSM, qui est comité de réhabilitation du sinistre, ils ont vu qu'il y avait un problème de bois d'échauffe dans le canton de Mugunga 3 par rapport aux déplacés et aux autochtones qui vivent aux alentours des camps. Le projet avait beaucoup de pertinence par rapport aux violences, par rapport aux agressions qui se passaient dans des brousses et dans des camps ou ailleurs à la recherche de bois d'échauffe. Nous essayons d'appuyer le déplacé pour pallier à des problèmes énergétiques qu'ils rencontrent toujours dans leur milieu de déplacement. C'est ainsi que le PAM avait appuyé le projet. Il a appuyé 5500 ménages par rapport au projet dans 4 sites de Mugunga. Maintenant, nous continuons le projet et le projet a des satisfactions très pertinentes par rapport à ce que souffrent les femmes et les enfants et les filles à la recherche de bois d'échauffe.
Du simple papier à la briquette, est-ce que vous pouvez nous expliquer très brièvement le processus? Parce que c'est impressionnant ce que vous faites ici.
En fait, on fait le recyclage de tout ce qui est appelé papier. Nous les séparons toujours de ce qui est plastique. Et avec cette séparation, nous essayons de tremper ce papier dans l'eau pendant 12 heures à 24 heures. À ce moment-là, nous passons à l'étape de mélange avec du sucre ou d'autres composantes qui sont comme l'ion pour permettre à ce qu'on ait de briquettes. Après cette étape, nous passons à l'étape de presse-machine. Nos presse-machines sont faites avec le bois et il y a d'autres presse faites avec le métal. Après avoir pressé la briquette, qui est normalement le papier mélangé avec du sucre, nous obtenons des briquettes que nous séchons pendant 24 heures à 48 heures. Et automatiquement, ces jarres de briquettes, nous les distribuons directement aux déplacés qui sont appelés à cuire leur nourriture et vraiment à pallier à la violence que subissent les femmes et les filles à la recherche de bois. Parce que là où ils vont dans la forêt, il y a beaucoup de risques. Et l'étude est faite et je pense que le ton de violence par rapport à MSF, qui est notre ami partenaire dans le site, le taux a sensiblement diminué par rapport aux problèmes liés à l'énergie.
De ces briquettes-là, combien de bénéficiaires dans les camps de Mugunga 3 et puis partout ailleurs?
En fait, à Mugunga 3, personnellement, nous avons 1375 bénéficiaires de briquettes comme énergie. Mais comme producteurs, nous avons 150 personnes qui produisent pour leurs frères bénéficiaires, donc ceux qui utilisent le briquette dans leur ménage. Globalement, disons, nous avons 1375 ménages qui reçoivent le briquette de déplacés, qui reçoivent chaque deux fois le mois le sac de briquette.
Les gens que vous utilisez pour la fabrication ne sont pas nécessairement des déplacés. Comment expliquer cela?
En fait, on a compris qu'il y avait un problème entre notre bailleur et nous-mêmes. Le PAM a remarqué lui-même qu'il ne pourrait pas dédoubler la ration par rapport aux déplacés. Et c'est cela a poussé à ce que, pour assouplir un problème qui existait entre déplacés et autochtones, que
disons les familles d'accueil.
Les familles d'accueil qui ont reçu leurs frères à Mugunga 3, le déplacé recevait un appui de PAM en vivre. Mais les autochtones ne recevaient pratiquement rien. Mais pour assouplir le conflit qui peut surgir pendant les distributions générales, le PAM a remarqué qu'il faudrait qu'on travaille avec les autochtones qui produisent le briquette et qui distribuent à leurs frères déplacés gratuitement, mais elles reçoivent aussi un stimulus dans le programme Food for Okpam.
Donc c'est une sorte de solidarité entre déplacés et puis les familles d'accueil.
Parfaitement, c'est un sens de solidarité entre le frère congolais, l'un déplacé, l'autre autochtone.
Oui, une dernière question. Combien de déplacés y a-t-il dans les camps de Mugunga 3 où nous sommes actuellement?
Actuellement, nous avons, si on ne peut pas compter en termes de déplacés, on compte nous en termes de ménages. Aujourd'hui, nous arrivons à un terme de 6000 ménages, mais chaque ménage a 5 personnes en moyenne. Donc il faut multiplier le 6500 x 5, vous aurez maintenant le nombre exact de déplacés qui sont dans le site de Deux.
Est-ce que vous avez des perspectives d'avenir en ce qui concerne ce projet?
Si, en fait, aujourd'hui, dans le business plan actuel, une fois que le déplacé s'est retiré, nous sommes en train de créer ce qu'on appelle chemin des sorties. On est en train de voir si notre bailleur peut nous permettre de commencer à vulgariser la briquette en dehors de Goma et aussi dans la ville de Goma pour permettre à ce que cette activité reste une activité générale génératrice de revenus pour les autochtones restants. Parce que le déplacé, une fois qu'il est accalmé, ils vont rentrer. Mais le projet peut être bénéfique par rapport à ces autochtones, mais aussi pour notre ville de Goma et pourquoi pas toute la province, ou soit pour notre pays.
Oui, des briquettes pour la cuisson des nourritures pour les déplacés, c'est une bonne chose. Et maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici?
La grande difficulté que nous rencontrons ici, c'est d'abord le vol de matériel. Parce que vous voyez, il y a ces déplacés qui sont dans les camps où on doit dire qu'il y a beaucoup de vols d'abord. Il y a des gens qui ont de mauvaises intentions qui passent. Il y a aussi, pendant la production, nous utilisons des matières qui ne sont pas totalement durables, nous utilisons du plastique, c'est facile à s'abîmer rapidement, on est en train de penser comment ça peut se faire. Nous avons aussi un problème d'intra, puisque chaque fois que nous allons sur terrain chercher les intras, une fois tu rentres, deux fois, trois fois, les Congolais envoient déjà un intérêt de vendre. Nous, on voulait rendre notre ville peut-être propre, en ramassant tout ce qui est déchets et on jette, mais quand tu rentres deux fois, trois fois, on te demande maintenant quelque chose par rapport à un sac de papier. Bon, quand cela ne tienne, mais aujourd'hui nous avons un appui provisoire de la Monisco et de PAM par rapport aux intras. C'est ça, donc le projet peut être durable. Mais dans le business plan, j'ai fait remarquer aux autochtones qui sont dans le projet, à la lumière de voir si on peut vendre, on va commencer à voir si réellement on peut acheter. Et s'il y a de bonnes intentions de nos frères humanitaires de nous donner gratuitement, qu'ils soient les bienvenus.
Pour l'appui du PAM, mais ça se limite sûrement aux déchets ou tout simplement il y a un appui financier?
Et quand ils donnent déjà le vivre, c'est bien. Le vivre est évalué en appui financier au départ.
Et pour le projet? Pour ce n'est pas un secret. Hein.
Oui, pour le projet, actuellement, le PAM ne donne que l'appui en vivre. L'année passée, l'ambassade de Pays-Bas nous a aidés pour avoir ce genre d'hangar. C'est l'ambassade de Pays-Bas qui aurait construit. C'est l'ambassade de Pays-Bas qui aurait donné même ce que vous appelez presse-machine, qui aurait acheté même tout ce qui est matériel à utiliser. Mais le PAM ne vient que juste pour appuyer le bénéficiaire qui produise, donc dans leur programme Food for Rock.
Monsieur Vianney, je vous remercie.
Merci également.
Et pour la nouvelle des provinces, le gouvernement français apporte un soutien de 900 000 euros, soit 1 million de dollars américains au PAM. Annonce faite officiellement mercredi dernier au cours d'une conférence de presse à la halle de la Gombe à Kinshasa. Ce montant est attribué pour appuyer en 2014 deux projets du PAM dans la province de l'Équateur, à savoir le projet Achat pour le progrès ainsi que l'assistance alimentaire à quelques 5 250 réfugiés centrafricains. Sébastien D'or, attaché de coopération à l'ambassade de France en RDC, parle de l'objectif et de la répartition chiffrée de ce don. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Nous avons une coopération bilatérale qui, en 2014, s'est élevée sur les questions alimentaires à une dotation de 900 000 euros. Donc ces 900 000 euros ont été divisés comme suit. 700 000 euros pour les réfugiés centrafricains, dont 500 000 euros pour achat de nourriture, et 200 000 euros pour ce qu'on appelle le cash transfer. Donc en plus de ces 700 000 euros, il y a eu 200 000 euros de dotation pour le projet Achat pour le progrès, mis en œuvre sur le territoire de Bikoro. Donc ces 200 000 euros s'ajoutent à 1,6 million de dotation depuis 2009, puisque nous soutenons ce projet innovant et novateur depuis 2009.
Magazine des Nations Unies, de science aux Nations Unies.
Monsieur Alain Waikani pour la télévision centrale de Chine. J'ai une question à Monsieur Dumont. Vous avez parlé de 154 000 personnes qui devaient être assistées en Ituri, au sud du territoire du Rumu, alors qu'il y a l'opération à court que la MONUSCO devait lancer contre Cobra Matata. Je veux savoir si ces gens sont déjà identifiés, ils sont regroupés dans des cas ou bien comment on va les assister et comment ça va se passer. Merci.
Cette question a été posée mercredi 1er septembre 2014 à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Écoutez la réponse de Yvon Edoumou, chargé de la communication au bureau OCHA RDC à Kinshasa.
Parle de personnes qui avaient déjà été déplacées il y a 3 ou 4 mois par des violences dans cette zone. Nous avons fait des évaluations, nous connaissons leur nombre, des détails spécifiques en termes de gens, combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants. Donc c'est déjà connu. Par rapport à des opérations à venir de la MONUSCO, nous sommes des humanitaires, nous sommes obligés de secourir les gens. Effectivement, on ne met pas en danger ni les populations que nous voulons assister, ni le personnel humanitaire que nous sommes, mais nous avons nos mécanismes de fonction qui nous permettent de travailler dans des conditions parfois très difficiles, même si à côté il pourrait y avoir des opérations militaires.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Sikumbo Singagali, je suis de nationalité tchadienne. Je suis veuve et mère de 3 enfants. Et je suis le chef d'antenne de Radio Capi Goma depuis 4 ans que je suis ici à Goma, où je travaille à la radio pour le compte des Nations Unies. J'ai fait mes études primaires et secondaires au Tchad. Avant d'aller étudier ici et là, j'ai fait mes études surtout universitaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, où j'ai notamment fait le CESTI de Dakar pour l'école de journalisme de Dakar que beaucoup connaissent. Et après, j'ai été aux États-Unis, au Canada, en France pour essayer de compléter ma formation de journalisme avant de revenir au Tchad où je travaillais comme journaliste à la radio nationale et puis j'ai fait diverses autres choses avant de créer mon propre journal qui a aujourd'hui 17 ans de vie. Il y a 7 ans, j'ai décidé de partir du Tchad pour des raisons personnelles et j'ai travaillé donc comme volontaire des Nations Unies à la MONUSCO pendant une année et demie où j'ai travaillé comme secrétaire de rédaction pour MONUSCO Hebdo que nous faisions en ligne à l'époque, mais également j'ai travaillé pour le magazine de l'époque. Et ensuite, je suis devenue professionnelle en 2008, où j'ai travaillé aussi comme analyste d'information pour le compte du monitoring. Mais également, je faisais le monitoring avant d'être affectée ici à Goma, où depuis, je travaille depuis 4 ans pour la radio Capi. Alors d'abord, il faut être matinal, hein, puisqu'on travaille pour une radio, donc il faut écouter les informations, voir qu'est-ce qui a été dit sur le Congo, la RDC en général, mais pour la province du Nord Kivu en particulier. Donc on ne travaille pas seulement à la radio, on commence déjà à travailler à la maison au réveil. J'essaie d'écouter d'abord les radios internationales, BBC, RFI, je regarde aussi la télé un peu. Et puis je viens au boulot à partir de 7h30 puisque la réunion de rédaction commence à 8h où je lis un peu aussi les messages pour voir les différents rapports qui sont envoyés par les différentes sections pour voir s'il y a des informations qui peuvent intéresser la radio. Une fois que tout cela a été fait, maintenant on passe à la conférence de rédaction à 8h où les journalistes proposent des sujets, où on essaie de recadrer les sujets par rapport aux propositions qui sont faites par les journalistes. On fait aussi la critique du décrochage de la veille et une fois ce travail fini, le secrétaire de rédaction établit le menu du jour où il dispatche le travail, les journalistes descendent sur le terrain. Moi je continue à travailler avec eux puisque je fais le travail aussi d'editing pour les sujets qui sont envoyés à Kinshasa. Ensuite je m'assure que tout est ok avant d'aller à la pause déjeuner. Deux fois 30-45 minutes et puis on revient parce que nous avons la conférence de l'après-midi qui commence à 14h30 pour faire le point et puis une fois que ce travail de mise au point est fini, on prépare donc le décrochage de l'après-midi et je continue à faire le travail d'édition pour les deux éditions mais également les grandes rubriques qui sont le dossier, le magazine, l'invité. Une fois que ce travail est fait, je fais aussi le suivi pour voir si tout est ok au niveau technique, si tout est ok pour le début du décrochage. Une fois que c'est fini, maintenant j'entame le côté administratif parce qu'il y a des MOP à signer, il y a des congés à approuver. En général, je quitte le bureau entre 19h30 et 20h. Voilà ma journée hein, tous les jours. En général, la radio occupe une bonne partie de notre temps. Et puis le Nord Kivu, ça n'arrête pas. On a toujours énormément de choses à faire, énormément d'activités à couvrir. Donc on n'a jamais assez de temps. Bon, souvent je m'occupe les week-ends, même si je viens à la radio, mais je viens un peu peut-être en mi-journée pour voir si tout va bien au niveau de la permanence. En général, je vais à la piscine, je nage un peu. Je vais à la salle de sport de la MONUSCO, où je fais un peu de vélo aussi. Mais en général, je lis. Je passe mon temps à la maison, je fais la lecture parce que ça me change un peu du travail quotidien de la MONUSCO. Donc, je lis beaucoup.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et notez dans votre agenda ces journées pour la semaine prochaine, le 7 octobre, journée mondiale d'action pour le travail décent. Le 8 octobre, c'est la journée mondiale pour la vue. Le 9 octobre, la journée mondiale de la poste. Et enfin, le 10 octobre, la journée mondiale de la santé mentale. C'est la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Ce numéro a été coordonné par Jean-Pierre Elali Coco sous la supervision de Julien Niamouni. Honoré Messenga a été au reportage, Jean-Noël Mokondo à la régie et Lydie Bettina à la présentation. Vous pouvez réécouter votre émission sur notre site internet le www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous.